Couture.
Les gens qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez vous en.
Dans le Mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ça va vite. Ça va vite. Déjà que Royaume-Uni, ce matin, Keir Starmer, le premier ministre, annonce sa démission. Les 10 dernières années, il y a eu... ça va être le 7e premier ministre. Tu parles d'un pays instable. Parler de ça et d'autres choses parce qu'ils ont des problèmes majeurs au niveau de l'immigration. Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, comment ça va?
Salut Pierre, ça va très bien, vous? Les deux?
Oui, ça va bien, sir. Ça va bien. Grooming Gang.
Ben oui.
Vous avez fait un reportage là-dessus. Oui. Explique-nous le phénomène parce que pas grand média au Canada s'intéresse à ce phénomène en Royaume-Uni et les aboutissants, tenaient aboutissants.
C'est un grand angle mort, effectivement, des médias traditionnels au Québec. Libre Média est sans doute le seul média francophone à en avoir fait état en format presse écrite de quelques podcasts qui en ont parlé. Je pense que Radio X l'a peut-être déjà évoqué dans une autre émission.
Oui.
C'est pas tout à fait nouveau, hein, donc ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de ça. Que sont les grooming gangs? Premièrement, ce sont des réseaux essentiellement composés d'hommes pakistanais qui vont soumettre littéralement en esclavage qui des femmes blanches, mais aussi des filles, donc de très jeunes filles et des adolescentes, qui vont être
soumises... C'est des pimps, là? C'est carrément des pimps...
C'est du proxénétisme, mais mélangé à l'islamisme. Donc, très beau mélange, hein, Pierre? Proxénétisme et islamisme, on voit que c'est un beau fit. Puis il y a quelque chose aussi qui fonctionne là-dedans au sens où le rapport, parlons de ce rapport-là. Donc, c'est un scandale dont on entend parler depuis quelques années.
Ouais.
Des gens m'ont dit sur les réseaux sociaux, hey, c'est une fake news que tu sors là, 250 000 filles blanches victimes des grooming gangs. Non, c'est pas une fake news, ça a fait la une de tous les tabloïds britanniques.
Mais quand c'est trop
dans les dernières
gros,
années.
Hein, quand c'est trop gros, on dit ah, ça se peut pas.
Mais c'est vrai que ça paraît très gros. Donc parlons de ce fameux rapport-là. Pourquoi on a relancé ce scandale-là des gangs de violeurs? Parce qu'il y a un député britannique conservateur, Rupert Lowe, qui a publié un rapport de 219 pages intitulé « The Rape Gang Inquiry Report », pardonnez-moi mon anglais. Et lui, il estime que 250 000, c'est ça, filles blanches ont été victimes de ces réseaux d'immigrés, finalement, qui manipulent des mineurs
au Royaume-Uni
avant de les livrer au viol. L'estimation est peut-être élevée, mais quand même bien, Pierre, que ce soit, mettons que c'est 100 000 et peut-être...
disons si que le rapport... 10 000.
C'est ça, que ce serait 10 000 ou 5 000 femmes. Quand même, que le rapport surestime
un
peu.
C'est un député là, qui est sorti.
C'est un député conservateur. En tout cas, lui, c'est le chef du Restore Britain, là, qui est une sorte de nouveau parti. Quand même, que les estimations sont un peu trop à la hausse. Là.
Un ça peu existe. Trop élevé. C'est un phénomène qui existe.
Oui, qui a été documenté. Et donc, ça conditionne la vie politique britannique et ça... Ça nourrit bon, ce qu'on appelle la xénophobie, toutes les réactions récentes qu'on a vues, les manifestations contre l'immigration de masse. Puis bon, il y a aussi récemment un jeune qui a été tué là, par un jeune Sikh dans un quartier, je ne sais plus, c'est dans une
Mais
banlieue
ça fait
de
des
Londres.
Années. Moi, j'ai travaillé à Londres en 84,
un
été avec ma copine. On est parti, il y avait un programme avec l'Université Laval, on pouvait aller étudier là-bas, puis on avait une espèce de centre d'emploi pour étudiants. Super expérience. Et on le sentait déjà en 84, il y avait beaucoup d'immigration pakistanaise, l'Inde notamment.
Oui.
Mais il n'y avait pas de tension. Là. Il n'y avait pas de... Tout allait bien. Là, il y a des tensions palpables. Là.
C'est majeur. Là. Donc, comment ça fonctionne? Ben, écoute, c'est du suprémacisme islamique, là, soyons clairs. Donc, le rapport pointe ça aussi. Là, donc, le concept de suprémacisme islamique. T'sais, on parle de racisme des populations occidentales. Ce serait les blancs, entre guillemets, pour ce que ça veut dire, qui seraient racistes envers les populations immigrantes.
Ouais.
Ici, c'est complètement l'inverse. Là. Ce sont des nouveaux arrivants, des Pakistanais, qui vont mettre un système carrément fondé sur une forme de racisme. C'est-à-dire, on vise principalement des blanches. Pourquoi? Parce qu'elles sont impures, parce qu'elles ne sont pas des filles musulmanes. Donc, ça fonctionne comme au Pakistan. Au Pakistan, qui est un pays très populeux d'ailleurs, là, 300 000 personnes au moins, si je me souviens bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a une migration massive en provenance de ces pays-là. Donc, au Pakistan, les minorités religieuses, c'est-à-dire que les jeunes femmes chrétiennes, sikhs et autres, ou hindous, peut-être qu'il y a même une minorité hindoue, sont victimes au Pakistan de ce même genre d'exactions, de ces mêmes genres de sévices. Donc, c'est un système qui est cautionné par la loi islamique qui consiste à c'est ça, abuser de femmes, des minorités religieuses, donc des infidèles finalement. Donc on abuse des infidèles. Mais et il y a une dimension économique parce qu'il y a eu... c'est-à-dire, comme tu l'as mentionné au début de l'entrevue, c'est du proxénétisme. Donc, il y avait aussi une variable criminelle.
Mais c'est un peu comme ici au Québec. Là. Je veux dire, on va profiter peut-être de jeunes femmes vulnérables, peut-être liées à la DPJ là-bas. Là. Tu sais, on va essayer de se coquiner.
Oui, c'est bien de le mentionner.
C'est parce que c'est pas tout le monde qui peut devenir prostituée en jeune...
C'est bien de le mentionner. Ce sont des femmes vulnérables issues de milieux populaires. Donc, vraiment, ce qu'on appelait la classe ouvrière britannique. Écoutez, ça n'a aucun bon sens, c'est scandaleux. Les médias traditionnels n'en parlent pas, on fait semblant que ça n'existe pas.
Parce que ça existe ici au Québec, là, hein? ce genre de prostitution-là.
J'espère pas. Ben, ça existe sous forme purement économique, moins sous forme religieuse, parce que c'est ça, ici, la différence. C'est-à-dire,
là, c'est vraiment là, des religieux qui embarquent dans un système pour peut-être...
Disons des religieux hypocrites, parce que bon, y a différentes interprétations, disons, de la... Du culte islamique. Là, tous les musulmans, évidemment, ne cautionneront le trafic humain, parce que c'est du trafic humain sous caution religieuse. C'est extrêmement grave, et c'est ça. Et on fait comme si ça n'existait pas. Et ce qui est mis en cause aussi, bien, c'est les institutions britanniques qui, évidemment, ont fermé les yeux. Pourquoi? Pour ne pas alimenter, justement, le racisme. Donc, il ne faut jamais parler de tout ça, parce que si on fait...
Mais
c'est
en train de casser, là, tu le vois.
Il y a une rupture.
Il y a une rupture.
Heureusement.
Keir Starmer s'en va. Lui, c'était l'apôtre de ça. On n'en parle pas, puis on cache ça. Là. Lui,
il doit y avoir un lien.
Oui.
D'après moi, ça ne peut pas l'aider. Donc, il y a une grogne. Écoute, il y a une colère qui monte.
Et il y a des partis politiques qui montent...
À droite. Oui. Et très à droite.
Carrément, là.
Et et dans un contexte où on vise aussi à effacer les grands symboles du Royaume-Uni. Écoute, Churchill qui va disparaître des billets de 5 livres.
Incroyable.
Je pense que c'est un lion qui va le remplacer ou une gazelle. Écoute, au Royaume-Uni, ils ont commencé à remplacer leur père fondateur. Nous autres aussi, on déboulonne nos pères fondateurs. On est bon pour ça. Tu as vu récemment Champlain en Ontario.
Oui. Mais Champlain en Ontario, ils n'ont rien à foutre, là, je veux dire. Tu comprends?
C'est un Français.
Oui, mais déjà là, en partant, il y a
donc, il y a toujours cette dualité-là.
Un préjugé là, défavorable.
Mais c'est pas le pire, hein, Champlain. Écoute, s'il y avait un gars qui n'était pas raciste, c'est bien Champlain. Le gars, c'est le père du métissage en Nouvelle-France. Donc, ouais. Tu sais, en plus, ils comprennent rien, généralement, ces gens-là. Donc, dans un contexte où on vise à effacer, finalement, l'histoire du Royaume-Uni au profit de cette mosaïque hein, multiculturelle, etc. Donc, mais ça va très, très loin et... Écoute, je suis content d'en parler aujourd'hui avec toi parce que ça, c'est pas fait. Il faut en traiter, il faut en parler. Et on a peur de le faire.
Mais c'est un échec des services sociaux aussi britanniques là, derrière tout ça. Là, parce que c'est comme la DPJ. On a eu des scandales ici au Québec. Là. Mais si on apprenait qu'il y a des jeunes filles de la DPJ qui étaient carrément liées à des gangs pakistanais liées à, comme tu dis, du fondamentalisme religieux et autres... Mm-hmm. Ce serait une autre histoire, mais peut-être qu'on a ça aussi.
Ça peut puis... s'en venir. Écoute, j'espère, l'ampleur est incroyable. 250 000, puis quand même bien que ce soit 100 000 ou 50 000 ou 10 000, c'est l'horreur absolue. Mais ça se peut.
Ça veut dire que le pays va pas bien non plus. Là.
Ça va pas bien, puis nous, ben, on fait comme si l'expérience européenne n'avait jamais été. Hein. Donc le Canada s'entête, lui, à faire venir une immigration qui est massive. À Québec, on le voit très bien. La capitale nationale, bon, j'ai suivi un peu la polémique récemment avec une intervention sur Facebook, mais écoutez... l'immigration, la pression migratoire que subit la ville de Québec est incroyable. Ben, d'après moi, la cassure, c'est 2022.
Mais la pression migratoire que le Canada subit aussi, là, c'est coast to coast,
oh, oui.
D'un océan à l'autre.
Mais à Québec, bon, comme on est d'ici, c'est vrai que ça nous surprend plus d'une certaine façon. À Montréal, on s'est habitué d'une certaine façon. Mais là, Québec se montréalise à vitesse grand V. Ça n'a aucun sens. Et écoutez, moi, ma propre femme est issue de l'immigration. Là, donc, tu sais, c'est pas une affaire, encore une fois, de race. Ça m'étonne toujours la couleur de peau. Moi, je m'en fous complètement de la couleur de peau. Là.
Mais tu as des politiciens, là, dès que tu remets ça en question, même des médias, là, je parle de Radio-Canada, là, t'es tagué un raciste. T'es tagué...
Systématiquement. Ça fait des années, là, extrême droite, bon, etc. Même que c'est rendu une joke, l'extrême droite, là, en tout cas, sur mes réseaux à
encore
moi.
Encore en fin de semaine, en Colombie, je veux dire, dès que t'es pas. T'es à droite du centre, t'es un extrémiste.
Écoute. On a l'extrême droite facile.
Mais ces gens-là, je veux dire, à Radio-Canada, il y a du monde qui ont étudié en sciences politiques. Là. C'est quoi la ligne de parti, là, à un moment donné?
L'endoctrinement est fort. Des décennies de propagande de Radio-Canada, etc. Parce que partout dans le monde, en fait, l'immigration de masse modifie les équilibres, les sociaux économiques, démographiques. On peut pas faire comme ça, si ça n'existait pas. Puis les cultures existent, l'épaisseur des peuples, l'épaisseur culturelle. C'est pas vrai qu'il y a juste des individus, il y a juste des consommateurs. Non, il y a des individus, mais il y a aussi des peuples. Et quand faire venir un certain nombre de personnes, ça va. Mais quand tu fais venir des peuples entiers, C'est une autre chose. Et ça produit ce qu'on a vu au Royaume-Uni. C'est-à-dire quand tu reproduis le système en place au Pakistan, au Royaume-Uni...
C'est ce qui est arrivé, là.
Donc, et ça va arriver. Ça, c'est probablement... Écoute, peut-être pas ce système-là de viol systématique, là, mais...
Mais il s'agit que des gangs de rue s'installent.
C'est des gangs de rue, effectivement. Les grooming gangs, ce sont des gangs de rue pakistanais, pour le dire simplement.
Il faut être aux aguets au Québec, au Canada.
Absolument.
C'est ce que,
il faut être vigilant. Mais on est naïf, on veut pas le voir. Puis non, il se passe rien. On fait semblant qu'il y a pas plein, que le paysage a pas changé. Non, moi, je vous dis, ça me surprend. Ça me surprend énormément parce que moi, je suis reparti au Mexique après le couvre-feu, là, pour l'anecdote. Je suis revenu près de 2 ans plus tard, après la pandémie. Ouais. Et quand je suis revenu à Québec, dans mon quartier, là, pour moi, c'était déjà plus la même composition démographique à Québec. Vraiment, la rupture, c'est 2022. Et je vous dis, Québec change très, très vite et on fait semblant qu'il ne se passe rien. Non, ça modifie les équilibres, ça a une incidence sur le prix des loyers. Après, c'est vrai, moi, je ne suis pas pour l'immigration zéro. Je pense qu'on a besoin d'une certaine immigration dans un contexte de dénatalité. C'est sûr que ça prend un certain nombre de gens qui viennent nous aider à nous renouveler, entre guillemets.
Mais ils ont poussé au bouchon, puis ils l'ont eu d'en face.
C'est un outil, l'immigration. Là. Moi, c'est pas vrai. Une société ne peut pas être hermétique. Moi, j'y crois pas du tout. Là. Je crois pas qu'il faut barrer... fermer les frontières, puis je crois pas à l'utilité des murs d'acier. Là, même la frontière américaine, américano-mexicaine, le mur frontalier, là, c'est un symbole. Là, les gens continuent à passer allègrement.
Ça passe, ça, oui.
Même militariser une frontière, en général, ça marche pas. Fait que je crois pas à ça, mais je pense que trop, c'est trop et que les gens sont pas fous.
Ah non,
fous,
sont
là.
Allés trop loin.
Non, mais écoutez, là, la pression migratoire que subit Québec est incroyable.
Et on le sent aussi, parce que tu regardes pour le reste, il manque de logement, il manque de tout. Là. Donc, éventuellement, il va falloir être réaliste davantage. Mais je pense qu'on est allé au bout, puis on revient tranquillement.
Ben, j'espère.
On a comme le pendule. Là. Bon, C22, on a quelques minutes. C22, oui. C34. Là, le gouvernement est en train de mettre en place... son monde idéal, son monde chinois idéal, c'est quoi? On s'en va vers le tracking du comportement social en ligne.
Mais rappelez-vous quand même, durant la COVID, justement, on peut y revenir, là, parce que bon, il y a des gens qui veulent pas qu'on y revienne. Mais rappelez-vous que 30 millions de téléphones cellulaires avaient été mis sous monitorés par le gouvernement fédéral durant la COVID pour, bon, apparemment, les données étaient dites désindividualisées. Je ne sais pas le mot qu'ils avaient employé, là, mais dans le fond, ils ont quand même traqué, en fait, là, 30 millions de téléphones sur une population de 40 millions de personnes au Canada.
Okay.
Ça s'est passé au Canada. Ça non plus, les maisons, on n'a pas trop fait état. C'est pas bien grave de monitorer.
Ça a coûté cher, par exemple. Je sais pas si tu as vu. Là,
ah oui, ça a coûté cher en plus.
Ben oui, ça a coûté cher de monitorer tout ça. Là. Il y avait des applications. Ben,
j'imagine, c'est d'envergure. Là.
Oui, oui, oui.
L'opération de technologie d'envergure. Donc, Mark Carney s'inspire beaucoup de l'Union européenne, donc la société de surveillance, comme tu dis, tracking. Keir Starmer et Landa.
Il va peut-être subir le même sort, Mark Carney, dans quelques années. Il peut prendre des notes pour son chum Starmer. Là.
La lune de miel, penses-tu, ne durera pas?
Ben, ça commence à s'effriter.
Selon un sondage léger, en tout cas, des TVA d'aujourd'hui, apparemment, Carney est encore dans les chouchous des politiciens, des Québécois, parmi les chouchous des Québécois avec Mme Fréchette, qui va jouer la carte Carney, hein, on le sait.
Ben, elle va essayer de jouer la carte.
Au provincial. Ah, ça marchera pas, mais j'espère.
Non, moi non plus, je pense pas que ça marche.
Donc, C22, ben écoute, c'est le projet qui vise finalement à donner des pouvoirs d'accès, élargir l'accès de l'État finalement aux données. Hein. Et on est vraiment ici dans la société de surveillance.
Sans passer devant un juge. Faut le rappeler, là. La police va avoir accès à vos données personnelles. On doit aller devant un juge. On doit demander avec un mandat spécifiquement ce qu'on a besoin comme information. Là, on va ouvrir jusqu'à 1 an de data. Open bar, on peut venir fouiller dans tout ton historique Messenger, il n'y a pas de problème dans ton compte iPhone, n'importe quoi.
C'est toujours, oui. C'est toujours des bonnes intentions. Hein. C'est pour la sécurité, bon, de
criminels,
de tout un chacun. Ouais. Là, toujours le même argument qui est invoqué.
Ben, dès que quelqu'un s'oppose, c'est tu de quoi cacher? Tu veux pas que tu as quelque chose à cacher?
Mais tu protèges les criminels.
Mais
ou,
bottom line, je sais pas. La Chine fait ça. Est-ce qu'on doit jouer le jeu de la Chine? Est-ce qu'on doit...
Pour la compétitionner.
Ben, pour oublier nos libertés aussi, parce qu'il y a des droits et libertés là-dedans. Là. Parce que ça va être challengé devant les tribunaux éventuellement. Là. Il va y avoir des avocats qui vont dire non, ça marche pas. On monte, ça va prendre quelques années. Ou un autre parti politique, un peu comme qui va arriver en Angleterre. Là. On va le voir. Il va y avoir un autre parti politique qui va dire si on abolit ça, vous êtes allé trop loin. Ça a eu des dérives. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Là, on essaye des affaires. Là. Les libéraux sont confortables. Là. Depuis 10 ans, sont installés à coût de déficit de 75-80 milliards par année.
Eh boy.
Mais éventuellement, ça va être battu en brèche. Là.
J'espère. Mais chose certaine, les gouvernements depuis l'émergence des réseaux sociaux, ont l'impression qu'ils ont perdu le contrôle du récit. Ce sont toujours
par les réseaux sociaux.
Par les réseaux sociaux, par la montée du populisme, comme on appelle. Et le but, oui, c'est de récupérer un certain contrôle sur l'information. Mais c'est toujours la même chose, la lutte à la désinformation. Donc, toujours, c'est toujours des intentions vertueuses. Hein. Donc, on veut protéger les enfants. Donc là, vous voyez comme en Europe...
Bien, on parle avec des experts de cybersécurité. Ils disent qu'ils commencent avec les 16 ans et moins, mais après ça, ils vont implanter, eux autres, des mesures. Là, après ça, ça va être 18 ans, là. Tu vas aller sur Internet, c'est 18 ans avec une carte d'identité nationale obligatoire.
Mais le but, c'est ça. C'est de mettre fin à l'anonymat qui garantit en quelque sorte une certaine liberté de ton,
ouais,
d'expression sur les réseaux sociaux. Et ce projet C34 qui veut créer une commission canadienne de la sécurité numérique, une sorte de CRTC finalement des réseaux sociaux.
Avec des données, là. Ils veulent un centre de données national. Ils vont renfermer quoi là-dedans? Ils vont-tu fermer les réseaux sociaux, éventuellement avoir leur propre réseau social contrôlé par l'État? C'est tout ça? On s'en va vers ça?
Je ne sais pas si on va nationaliser les réseaux sociaux, mais chose certaine, c'est ça. C'est que on sait que ces plateformes-là aussi ont surpassé le pouvoir des États, en quelque sorte, Meta. Meta qui est toujours en litige avec Ottawa, d'ailleurs, ouais, parce que les pages Facebook des médias canadiens sont toujours fermées. Ce qui est un mauvais move, parce que ce sont les médias aussi qui l'ont demandé. Finalement, ils se retrouvent, les médias traditionnels,
doublement perdants. Google le fait, mais Google donne 100 millions par année aux médias.
Mais c'est toujours ça, réguler le discours, et on veut pousser les plateformes à censurer, finalement, préventivement, certains propos. Donc non, il faut toujours se méfier des intentions du gouvernement.
Et des médias là-dedans, aussi financés par l'État.
Absolument.
Donc, t'as des médias muselés, là, attachés les deux mains, attachés avec des tie wraps, qui vont essayer de nous faire à croire que c'est une bonne chose. De quoi de suivre à la trace le monde sans mandat de police. Mm-hmm. Quand même, là, c'est ça aussi. Là.
Il faut
être aux aguets.
Absolument. Il faut être vigilant pour arrêter de penser que le gouvernement a juste des bonnes intentions et veut notre bien. Il faut renouer avec une saine méfiance envers les gouvernements.
Toujours. Non, toujours.
Sinon, on n'a appris aucune leçon de la pandémie, vous comprenez.
Entre autres, mais de l'histoire au complet.
De l'histoire. Et là-dessus, je pense qu'il faut être plus américain. T'sais, la méfiance que les Américains ont gardée historiquement envers leur gouvernement, je pense que c'est une chose positive. Ils ont des défauts, les Américains, mais arrêtons de penser que le gouvernement veut toujours notre bien. C'est faux.
Et t'as des amendements qui protègent les Américains aussi. Notre charte des droits mange une volée. Là.
Constitution plus musclée.
Jérôme Blanchet-Gravel, éditeur Libre Média. On peut s'abonner à Libre Média?
Oui, idéalement. Minimum, c'est 6 $ par mois le prix.
Et ça vous donne accès à du contenu, là?
100% des contenus. Beaucoup d'articles. Écoutez, les Grooming Gangs, c'est un article qui a beaucoup marché, forcément, parce qu'on est seul à parler de ces sujets-là. Donc, chaque semaine, en fait, des articles que vous ne retrouverez jamais ailleurs, de traiter de manière sérieuse, des reportages sur le terrain, dans plein de pays. J'ai fait la liste récemment de l'inventaire de tous les pays où on a eu un correspondant, où je suis même moi-même allé. Écoutez, je pense qu'on parle déjà d'une trentaine de pays. C'est incroyable. Récemment, on a eu un reportage sur les mines d'or en Afrique du Sud qui contaminent des habitants. Chaque semaine, on a un reportage de genre l'Afrique du Sud, un pays, quelque chose d'exotique. La semaine passée, j'ai traité de l'Équateur, qui est devenu apparemment le pays le plus dangereux d'Amérique latine. Il reste surpassé le Mexique. Donc, on se promène, on est international.
Excellent. Merci beaucoup, Jérôme. Bon, Louis, on ouvre les lignes après la pause.
Oui, monsieur.
Moi, je regarde. Y avait-tu...
Vas-y.
T'as l'histoire du maire Marchand qui vient nous dire que les projets comme le tramway, il ne faudrait pas donner les prix d'avance. Là, je veux dire, là, on commence à déraper solide. Là. Je veux dire, ces politiciens ne sont pas capables d'avoir des balises de prix, puis ils viennent nous dire, ben là, on ne pourra pas jouer là-dedans. Je veux dire, qui faisait ça? Des politiciens, ils l'ont fait. Là. Jean Drapeau faisait ça. Hein? L'Expo 67, il donnait pas de prix, mais ça a explosé. Il y a eu trois fois, ça a été de la corruption puis des hausses de coûts. Est-ce que les politiciens dérapent là, quand on est rendu là? Ou...
Ben, tu sais, ils gèrent notre argent. Ce serait le fun à un moment donné de savoir où notre argent s'en va puis combien de notre argent s'en va sur quel projet.
Tu sais, t'as le vérificateur général de la Ville de Québec qui ramène à l'ordre, d'ailleurs. Là, on donne de l'argent à des organisations deux fois, trois fois. C'est pas trop. Bon, tout va bien. Moi, je trouve ça inquiétant que des politiciens se ramènent comme ça puis qu'ils nous ramassent l'idée que, finalement, donner des fourchettes de prix sur des projets pharaoniques, là. On parle du tramway, on sait même plus comment ça va finir.
C'est des milliards de dollars.
Une gonzillarde. Puis ils n'ont pas l'air à vouloir s'intéresser à la chose publique plus que ça, voilà. Est-ce qu'on doit donner des balises de prix encore et surveiller de plus en plus? Hein? Je pense que oui. Là, les politiciens, eux autres, sont lâchés lousses. y a-tu du monde? Il y a CPA, les ordres de comptable, puis tout ça. Les autres doivent capoter, là. Regardez ça à l'interne.
Bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent?
Ouais.
Comme nous autres, ils capotent, puis ils regardent ça aller, puis on va tout se faire avoir.
Voilà. Fait que, garde 418-670-9098. Après la pause, on ouvre les lignes là-dessus. Que pensez-vous de ces politiciens qui se foutent des prix? Puis, oh, c'est pas grave, hein? On viendra. On peut les ramener à l'ordre aussi, aux 4 ans, c'est ça?
Ouais, pour ça, il faut commencer par sortir voter, Pierre.
Voilà, on vient après la pause.
Couture.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Dans le mid, Radio-X.